expose aujourd'hui dans ce quatrième cours Athénée le texte de la transfiguration de Jésus. C'est un texte que nous aurons pendant le carême, le deuxième dimanche du carême. Nous entendrons ce texte de la transfiguration de Jésus. J'ai choisi l'évangile de Luc, voilà, qui a quelques aspects suggestifs que je développerai après. Et donc nous sommes au chapitre 9, versets 28 à 36 de l'évangile de Luc. Donc nous avons entendu ce mot.
On va l'entendre.
À 36 de l'évangile de Luc.
Qui veut bien le lire ? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Environ 10 jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus : Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu.
On vous laisse 5 minutes pour méditer un petit peu de cette parole et puis faire ce que vous voulez sur votre livret. Vous a marqué, vous a choqué. je retourne et on est obligé d'avancer. Le père Thomas a besoin vraiment d'une heure et demie.
Nous avons entendu ce beau texte de la Transfiguration. J'ai choisi le texte dans l'évangile de Luc. Et en fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir déjà l'ensemble de ce texte-là, de ce texte de la Transfiguration, et un peu aussi dans quelle séquence ça se déroule dans les évangiles. Nous avons commencé par lire cet évangile, par cette phrase « Environ 8 jours après avoir prononcé ces paroles ». Donc on s'imagine bien que nous devons replacer ce texte de la Transfiguration dans un ensemble qui est plus vaste. Prononcer ces paroles, mais de quelles paroles s'agit-il ? On remarque dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, que nous avons à chaque fois la même séquence. La profession de foi de Pierre, dont je vous ai parlé pour le premier cours d'Athénée, profession de foi de Pierre, puis la première annonce de la Passion, puis Jésus fait quelques considérations sur l'état du disciple, comment se mettre à la suite de Jésus, voilà, à sa suite, et finalement, il conclut par cette phrase-là, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont ici présents, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu. » Voilà ces paroles, environ 8 jours après avoir prononcé ces paroles, c'est-à-dire ces dernières paroles qui nous mettent justement avec une promesse. Certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu. Et alors nous voici sur la montagne de la Transfiguration, une montagne qui n'est pas nommée. Et quand une montagne n'est pas nommée, notamment dans les évangiles, c'est que ça fait référence au terme de la montagne au sens biblique du terme, c'est-à-dire le lieu où Dieu se révèle, le lieu où Dieu se montre, le lieu où Dieu fait alliance avec son peuple, le lieu où justement on peut entre-apercevoir quelque chose du règne de Dieu. Et c'est ce qui est promis par Jésus. Certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu. Ce qui est d'autant plus marquant, c'est que dans cet épisode, nous voyons Moïse et Élie qui sont présents aux côtés de Jésus. Et ça n'a rien d'anodin. On voit que ces deux personnages ont bénéficié tous les deux de ce qu'on appelle des théophanies, des manifestations de Dieu, manifestations divines, justement sur la fameuse montagne de Dieu. Donc une montagne, quand elle n'est pas nommée dans les évangiles, c'est qu'elle fait référence au Sinaï, c'est-à-dire la montagne de Dieu, le lieu où Dieu s'est révélé à Moïse et lui a donné l'alliance, il a fait alliance avec son peuple, et il lui a donné notamment, pour résumer, pour sceller cette alliance, ses 10 commandements, le décalogue, les 10 paroles pour faire alliance. Et puis Élie, on se souvient que quand le peuple a rompu cette alliance, n'est pas fidèle à l'alliance avec Dieu, il avait fui, et puis justement Dieu s'était révélé à lui, non pas dans le tonnerre, dans le feu, dans les éclairs, non, pas dans l'ouragan non plus, il s'était révélé dans une brise légère. Et justement c'était pour permettre de renouer cette alliance, de poursuivre cette œuvre de salut que Dieu opère dans l'histoire des hommes. Donc de quelles paroles s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de paroles où on voit Dieu qui se manifeste. Et ça, c'est très important. Dieu se manifeste. Et puis on entend aussi « environ 8 jours après ». Environ 8 jours après, après ces paroles, après ce long discours, après cette séquence, profession de foi de Pierre, l'annonce de la Passion, et puis quelques considérations sur la suite de Jésus, comment on est disciple de Jésus. Là, on a cette petite incise, 8 jours après. Si on regarde les autres synoptiques, Matthieu et Marc, on voit 6 jours après. Six jours après, je vous avais dit, rappelez-vous, que la profession de foi de Pierre, c'était au moment de la fête juive du Yom Kippour, le jour du pardon, le jour du grand pardon, où le grand prêtre entre justement dans le Saint des Saints pour prononcer le nom de Dieu, comme Pierre prononce le nom de Jésus, hein, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, voilà, et pour obtenir aussi le pardon des péchés. Donc c'est six jours après, ça veut dire que la transfiguration a lieu le premier jour d'une autre fête très importante pour les Juifs, l'une des trois fêtes de pèlerinage, qu'on appelle la fête des tentes, la fête de Soukhot, où justement les Juifs habitent sous des tentes à ce moment-là, pour qu'il n'y ait pas de séparation entre eux au niveau du toit, pas de séparation entre eux et puis le ciel, c'est-à-dire Dieu. Ils habitent, pour faire un peu mémoire, de ces 40 ans d'errance dans le désert où le peuple hébreu habitait des tentes très sommaires qui montrent aussi, quelque part, la fragilité de la condition humaine. Et là, on a Saint-Pierre qui dit « Faisons trois tentes !» Faisons trois tentes. Donc on est dans cette fête des tentes, cette fête où on se rappelle ces 40 ans d'errance dans le désert. Et puis, ça nous fait penser à quelque chose du prologue de Saint Jean, qui dit que finalement Dieu a planté sa tente parmi nous, il a habité notre condition humaine, il est venu, il a pris chair. Voilà, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, il a en fait planté sa tente. Il a revêtu la fragilité de notre condition humaine. Et c'est ce qu'on voit déjà, hein, quand on voit cet énorme camp des Hébreux dans le désert, et au milieu, la tente du rendez-vous, la tente de la rencontre, dont Moïse a eu les plans, et justement, donc, qui montre que Dieu plante sa tente au milieu du camp des Hébreux, au milieu de notre camp à nous. En fait, il plante sa tente au cœur de notre histoire, au cœur de notre monde, au cœur de notre vie. Et ce qu'on voit, c'est que cette fragilité humaine qui est assumée par Dieu, par son incarnation, en fait, cette humanité, elle est transfigurée. Elle est complètement habitée par la gloire de Dieu. Et c'est ce qui est magnifique justement dans ce passage de la transfiguration, c'est qu'à la fois on fait mémoire de la fragilité et en même temps on voit cet appel, cette promesse, cette espérance pour nous comme une anticipation en fait de la résurrection. Et c'est là où on peut voir pourquoi Luc parle non pas de six jours, qui est une manière peut-être plus historiquement, scientifiquement historique de voir les choses, mais il parle de huit jours. Huit jours, pourquoi ? Parce que c'est une allusion au mystère pascal de Jésus. Huit jours après, en fait, ça se réfère à Pâques. On sait bien qu'au jour de la création, Dieu se repose le jour du sabbat, le jour du Shabbat, c'est-à-dire le septième jour. Donc pour nous, c'est le samedi. Très bien. Donc ça veut dire qu'il est ressuscité le lendemain du septième, donc le huitième jour, environ huit jours après. Environ huit jours après, c'est-à-dire le jour de la résurrection, le jour de la résurrection éternelle. C'est à la fois le premier jour, le dimanche, c'est à la fois le premier jour de la semaine, effectivement, mais c'est en même temps le huitième jour. Il l'appelle le jour de l'éternité. C'est-à-dire que c'est le jour qui n'aura pas de fin, finalement. Dieu a créé sa création en sept jours, il se repose le septième, et fait entrer l'humanité dans ce jour qui sera éternel, c'est-à-dire le huitième. Et avant ce huitième jour, nous avons le sixième jour, c'est-à-dire le vendredi. Et le vendredi, nous le savons bien, c'est la mémoire, et notamment par le vendredi saint, du jour où Jésus vit sa passion et justement meurt sur la croix. Et justement, dans la séquence que je vous rappelle, la profession de foi de Pierre, puis ensuite l'annonce de la passion, Jésus vient d'annoncer sa passion. Quand il dit sa transfiguration, en fait, il vient d'annoncer sa passion. Et donc il n'y aura pas de résurrection, il n'y aura pas cette transfiguration quelque part, qui est une prophétie, une promesse de la résurrection, si on ne passe pas par cette annonce de la passion, par le fait pour Jésus de vivre effectivement sa passion. Et on sait que, on se rappelle que justement, à partir de ce moment-là, on est dans le chemin, dans cette montée vers Jérusalem, donc vers la passion, vers le mystère pascal de Jésus. Et dans la discussion entre Moïse et Élie, ils discutent de quoi ? Ils discutent de son départ à Jérusalem. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Si on regarde un peu plus précisément le grec, on verrait Exode. Il parlait de son exode. L'exode, c'est le moment où justement le peuple hébreu sort d'Égypte et entre dans le désert, en passant par ce passage de la mer. Son exode qui allait s'accomplir à Jérusalem. Et cet exode-là, justement, c'est sa passion. C'est le moment précis où il va accomplir les Écritures. Il accomplit ces Écritures-là à Jérusalem sur la croix. Il dira notamment dans Saint Jean, c'est accompli. Tout est accompli, c'est-à-dire quoi ? Toutes les Écritures anciennes, il vient tout accomplir. Moïse représente la loi et Élie représente les prophètes. Tout vient se résumer. Justement, sur la croix, tout vient s'accomplir. Et on voit très bien aussi que les trois disciples qui sont présents à la transfiguration, vous allez me dire, les privilégiés, ce seront les trois mêmes disciples, hein, Pierre, Jacques et Jean, qui seront les accompagnateurs, ceux qui accompagneront Jésus au cœur de sa passion et notamment de son agonie à Gethsémani. Et on verra leur infidélité parce qu'ils s'endormiront et ils n'accompagneront pas justement leur maître dans cette agonie. Seul Jésus ira jusqu'à la croix. Seul Jésus vivra cette mort sur la croix. Alors nous sommes dans cette montée, peut-être, au fur et à mesure, hein, de ces 12 cours athénées, là c'est le quatrième. Et bien, il faut le voir peut-être comme un chemin, comme une montée avec Jésus. Voilà, vers sa Pâque, vers plus de lumière qui est révélée avec la transfiguration et qui est révélée ultimement à travers sa résurrection. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Continuons à écouter ce fils qui nous parle à travers tout ce parcours athénée. Créateur ineffable. Vous êtes la vraie source de la lumière et de la sagesse. Daignez répandre votre clarté sur l'obscurité de mon intelligence. Chassez de moi les ténèbres du péché et de l'ignorance. Donnez-moi la pénétration pour comprendre, la mémoire pour retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, la lucidité pour interpréter. Une grâce abondante pour m'exprimer. Aidez le commencement de mon travail. Dirigez-en le progrès. Couronnez-en la fin. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.